Chers amis du Parti de la France, bienvenue dans cette nouvelle émission de réponse à vos questions. Alors, beaucoup de questions pour cette session d'avril 2026. Donc, je vais, pour répondre à toutes les questions et pas faire une émission trop longue, je vais y répondre de manière relativement brève afin que de pouvoir satisfaire tous les auditeurs qui m'ont posé des questions. Première question concerne la future loi Yadan. Donc, pour ceux qui ne seraient pas au courant, il s'agit d'une loi qui, une proposition de loi d'une députée des Français de l'étranger, Madame Yadan, qui est macroniste et qui est surtout une députée qui agit dans l'intérêt de l'État d'Israël et non de la France, apparemment, puisque cette dame a voulu faire une proposition de loi empêchant, en fait, en rendant illégal, en faisant devenir comme un délit pénal, toute critique envers l'État d'Israël. Alors évidemment, elle s'en défendra en disant non, pas du tout, mais en fait, si. C'est-à-dire qu'en fait, la politique actuelle de l'État d'Israël, particulièrement agressive, particulièrement hostile avec les populations environnantes et également la population palestinienne, eh bien en fait, cette loi empêcherait de critiquer librement cette politique. Donc on ne pourrait plus critiquer le sionisme, on ne pourrait plus critiquer Tsahal, on ne pourrait plus critiquer le gouvernement de Benjamin Netanyahou, sous peine de risquer de se retrouver devant la 17e chambre correctionnelle. On le sait, nos gouvernants depuis des années multiplient les lois liberticides de telle façon à faire taire les Français, à essayer de nous empêcher de parler librement de sujets qu'ils soient locaux, nationaux ou internationaux, comme c'est le cas. Donc cette proposition de loi a été retirée, alors je pense que c'est stratégique, de toute façon le gouvernement l'a annoncé, et ce sera un projet de loi qui sera cette fois-ci présenté par le gouvernement, donc peut-être ils vont faire ça au mois de juin, on parle de juin, mais il n'y a pas eu de date de définie, ou alors ils vont essayer de nous faire ça peut-être pendant l'été, au moment où les gens sont particulièrement peu attentifs aux derniers travaux de l'Assemblée. On sait qu'il y a des textes très litigieux, très conflictuels, qui sont généralement votés à cette période de telle façon à ce que ça passe dans l'indifférence politique générale. Donc oui, évidemment, le Parti de la France est contre cette loi liberticide qui tend encore une fois à museler la liberté d'expression dans notre pays. Et donc, oui, il va y avoir un projet gouvernemental. La loi Yadan a été retirée du débat à l'Assemblée nationale parce que peut-être qu'il n'était pas certain que cette loi passe, malgré l'appui du Rassemblement national, qui aujourd'hui est totalement inféodé à l'État d'Israël. Même en commission, certains socialistes n'ont pas voté pour, mais par contre, le Rassemblement national, comme un seul homme, a voté pour. Donc voilà, les plus acharnés à voter cette loi étaient les élus du Rassemblement national, qui, encore une fois, se mettent à plat ventre devant un État étranger et, encore une fois, ne défendent pas les Français dans la liberté de s'exprimer. Alors, nous verrons à quelle sauce nous allons être mangés, nous verrons si cette loi passe. En tout cas, il faut rester vigilant et le retrait de la proposition de loi Yadan n'est que un sursis provisoire avant le retour d'une loi qui n'aura peut-être pas d'ailleurs son nom, puisque ce sera un projet de loi présenté par le gouvernement. Mais donc voilà, restons vigilants, car il s'agit encore une fois d'empêcher les Français de s'exprimer librement. Et la même personne me demandait que comptait faire le Parti de la France quand elle arrivera au pouvoir pour éradiquer l'entité sioniste dans notre pays. Écoutez, le Parti de la France n'est pas obsédé par le sionisme ou l'antisionisme, le Parti de la France est obsédé par la France. Et tout lobby étranger ou confessionnel qui voudra imposer des choses à nos élus, à nos dirigeants, sera évidemment remis à sa place. C'est-à-dire que ça sera fini, en tout cas quand le Parti de la France sera au pouvoir, de tous les lobbies qui agissent pour un État étranger, des lobbies qui agissent de manière confessionnelle, des lobbies affairistes, tout ce genre de choses, de forces plus ou moins occultes. Eh bien tout cela non, parce qu'au Parti de la France, nous gouvernerons dans l'intérêt de la France et des Français, uniquement dans l'intérêt de la France et des Français. Et si des lobbies essaient d'influer sur la politique de l'État, eh bien ils seront purement et simplement ignorés, et les membres de ce lobby ne pourront occuper de place dans les institutions, dans les rouages de l'État, puisque ils n'agissent pas dans l'intérêt national, mais dans l'intérêt de leur propre catégorie. Et parfois, ça peut être un lobby aux ordres d'un État étranger. Donc, nous ferons attention à tout cela. Mais voilà, nous ne sommes pas obsédés au Parti de la France par le sionisme. Mais en tout cas, nous souhaitons pouvoir dire ce que nous voulons de la politique israélienne, et également de ceux qui servent l'État d'Israël dans notre pays et qui font passer même les intérêts de l'État d'Israël avant ceux de la France dans notre propre pays. Une autre question qui était assez longue, donc je vais la résumer, concerne la propriété privée. Est-ce qu'elle est menacée en France ? Oui, elle est menacée parce que nous vivons dans un État socialo-communiste qui est en plus, donc il y a une volonté en fait d'attenter à la propriété privée. Et notamment par les droits de succession, qui sont un scandale absolu, c'est-à-dire que l'État détrousse les morts et parfois met à mal l'héritage. Et d'ailleurs, certains ne s'en cachent pas, c'est-à-dire que par exemple chez les tarés d'extrême gauche de LFI, ils veulent supprimer l'héritage. Ça veut dire que les biens que vous aurez accumulés tout au long d'une vie, que vous souhaiteriez transmettre à votre famille, à vos enfants, eh bien seront saisis par l'État. Imaginez l'activité économique d'un pays où on saisit l'héritage. Voilà, ça s'appelle le communisme, c'est-à-dire que les gens ne travaillent plus, la productivité est catastrophique, les pénuries se retrouve partout. Donc voilà, bienvenue dans le communisme intégral qui a si bien réussi partout là où il a été appliqué. Donc oui, il faut être vigilant, il faut remettre la propriété privée. C'est d'ailleurs ce qui est étonnant, puisque la propriété privée, c'est étonnant de la part de la gauche qui veut attaquer la propriété privée, puisque c'était l'un des principes qui a découlé de la révolution, des droits de l'homme, la propriété privée. Et bien maintenant, le communisme veut revenir là-dessus, et c'est vrai qu'il est de plus en plus compliqué, en tout cas dans notre pays, de préserver cette propriété privée, de transmettre cette propriété privée. Il y a aussi, vous savez, dû entendre parler, ça revient régulièrement, une volonté de vous faire payer pour les gens qui seraient propriétaires, qui auraient fini de payer leur maison à la banque, qui auraient fini de rembourser leur crédit, et bien de leur faire payer une sorte de loyer à l'État, pour évidemment financer le tonneau des Danaïdes et sûrement construire plus de logements sociaux pour recevoir encore plus d'extra-européens. Voilà. Il est certain qu'il faudra resacraliser la propriété privée en France. Y a-t-il une association qui s'occupe du racisme anti-blanc en France ? Alors, je pense qu'il en existe plusieurs, en tout cas une association politique, il y a le Parti de la France, puisque nous mettons en avant la dimension ethnique de notre pays, de la France, et même de l'Europe, mais également une association spécifique, il y a l'AGRIF, créé par Bernard Anthony et qui s'occupe de poursuivre en fait régulièrement les gens qui font du racisme anti-blanc, du racisme anti-français ou du racisme anti-catholique. On me dit, alors on m'apprend, mais que Pierre Cassan aurait été viré de sa banque, qui lui aurait fait savoir comment qu'elle ne voulait plus l'avoir comme client. Alors je ne sais pas si c'est en tant que si c'est riposte laïque, son association, ou si c'est lui personnellement, mais toujours est-il que oui, ça arrive régulièrement. Et d'ailleurs, je trouve ça, les banques devraient être encadrées. Dans un État qui encadre tout, on n'encadre pas ça. C'est-à-dire que une banque, pour n'importe quelle raison, peut vous mettre dehors, comme une assurance d'ailleurs, quelquefois, on peut arrêter de vous assurer de manière unilatérale, alors que vous n'avez jamais eu aucun problème dans cette banque ou dans cette assurance. Eh bien, je crois que la loi, comment devrait encadrer cela, parce que là, apparemment, c'est pour des raisons politiques, mais c'est pas le premier qui se voit se faire foutre dehors de sa banque, parce que la banque estime, donc souvent ils utilisent un prétexte, mais la banque, le banquier, parce qu'il n'a pas le droit légalement, je crois qu'on peut pas vous dire non, on ne veut plus de vous à cause de vos idées politiques, bon, enfin, il trouve un prétexte totalement bidon pour vous mettre dehors, et c'est pour un motif politique, parce que un sale gauchiste, aura harcelé, pas via le téléphone, les réseaux sociaux, en disant, ou parce que ça ne plaît pas à l'un des cadres bancaires d'avoir ce qu'on considère comme un fasciste dans sa banque. Donc évidemment, totale solidarité avec Pierre Cassan, mais en tout cas le Parti de la France est favorable à ce que si vous n'avez aucun problème financier, une banque ne puisse pas vous refuser. Alors évidemment qu'une banque refuse un terroriste, ça peut se comprendre, mais qu'une banque ne doit pas pouvoir virer quelqu'un pour des motifs politiques, et que si il s'avère qu'une banque le fait, elle devrait être très lourdement condamnée. Amnesty International, qu'en pensez-vous ? Amnesty International est une ONG gauchiste, immigrationniste, nocive. Donc je pense que si elle disparaissait, eh bien, ça ferait du bien à l'humanité. Ce sont des gens qui ont un avis totalement biaisé et partisan et politisé sur tout. Donc ça, voilà, ça fait partie des associations, en tout cas, qu'il ne faudrait surtout pas financer. Quelle différence de point de vue sur l'immigration entre le Parti de la France et Reconquête ? Alors, il y a beaucoup de points communs, bien sûr. Hein. En tout cas, le Parti de la France, je sais que à Reconquête, sur la remigration, on tergiverse. Je sais que M. Zemmour, en 2022, lors de sa campagne présidentielle, en avait parlé d'un ministère de la remigration, puis hop, comme par magie, ça avait disparu du programme. En tout cas, au Parti de la France, nous sommes pour la remigration massive des populations extra-européennes qui sont dans notre pays. Voilà, c'est, si on ne doit retenir qu'une seule chose du programme du Parti de la France, c'est la remigration des populations extra-européennes inassimilables. Et la remigration heureuse, c'est-à-dire la remigration, on mettra en place des conditions pour que les étrangers estiment qu'il n'est plus du tout intéressant de venir en France, parce qu'ils ne viennent pas pour le climat tempéré, le cadre bucolique, pour l'histoire de la France éternelle, pour ses traditions, pour sa gastronomie, puisqu'en fait ils importent, pour beaucoup d'entre eux, leur grande majorité d'entre eux, leurs mœurs, leur culture, et en plus, avec très souvent, une énorme hostilité vis-à-vis du pays d'accueil. Eh bien, nous mettrons en place les conditions pour qu'il y ait une remigration volontaire. C'est-à-dire que les étrangers extra-européens n'auront plus droit à rien. Comme le disait Jean-Marie Le Pen à l'époque. Eh bien, je pense que c'est déjà des centaines de milliers, des millions d'étrangers indésirables s'en iront d'eux-mêmes, parce qu'il y aura, en gros, il n'y aura plus rien à gratter. Donc déjà, d'une part, ce sera une grande partie de la remigration. Il faut savoir, tous ceux qui vous disent « mais non, c'est impossible, vous ne pourrez jamais les mettre dehors, c'est trop tard », pas du tout. À partir du moment où on coupe les pompes aspirantes de l'immigration, à partir du moment où ils ne pourront plus se soigner gratuitement, ils ne pourront plus se loger gratuitement, ils ne pourront plus scolariser leurs enfants et accéder à tous les services publics gratuitement, eh bien, ils s'en iront voir si l'herbe est plus verte ailleurs, ou ils repartiront au bled, et les récalcitrants, eh bien, on les mettra de force dans des charters. C'est quand même pas compliqué, c'est une question de volonté politique. Alors, la droite nationale s'en prend toujours aux immigrés mais pas aux magouilles de la classe dirigeante, comme l'évasion fiscale, la corruption, le trafic d'influence. En tout cas, partie de la France, si, bien sûr, toutes les malversations de nos élites, nous les dénonçons, nous les combattons. Quant à l'évasion fiscale, je vous dirais, à partir, on ne s'évade que d'un enfer fiscal. Et donc, en fait, nous transformerons la France en paradis fiscal, ce qui permettra de faire revenir des capitaux, des expatriés et de relancer l'activité économique. Il y en a assez de vivre dans un État socialiste, dans un État communiste qui taxe systématiquement tout créateur de richesse. En France, nous ferons de la France un paradis fiscal. Pourquoi ? Parce que nous arrêterons de l'assistanat généralisé mis en place depuis des décennies, et en particulier l'assistanat généralisé de l'immigration, qui nous coûte, l'immigration extra-européenne, nous coûte évidemment beaucoup plus cher que ce qu'elle nous rapporte. Donc il faut arrêter avec cette légende de gauchiste, d'ailleurs que personne ne croit, tout le monde sait que l'immigration extra-européenne est un gouffre financier pour notre pays, comme l'était d'ailleurs la colonisation. On vous dit, là, voilà, la France a pillé son empire colonial. Eh bien non, en fait, la colonisation, nos colonies nous ont coûté beaucoup plus cher qu'elles ne nous ont rapporté. Les problèmes, alors c'est une longue question, c'est pour ça que je résume par rapport au thème, concernent les gens du voyage, qui posent des problèmes bien souvent, partout où ils s'installent. Alors j'avais déjà répondu à cette question, mais vous savez que la politique est l'art de la répétition. Eh bien les gens du voyage seront soumis à la législation en vigueur, sans aucune tolérance. C'est-à-dire que dès que des gens du voyage s'installeront à un endroit où ne c'est pas autorisé, immédiatement, le préfet prendra les mesures nécessaires par la force publique, en recourant à la gendarmerie ou à la police, pour expulser ces gens du voyage indésirables qui s'installent sur des terrains qui ne sont pas prévus à cet effet, sur des terrains privés. On parlait de la propriété privée tout à l'heure. Eh bien, ils devront être expulsés par la force, et une mesure assez radicale qui devrait calmer leurs ardeurs d'installation sauvage, c'est la confiscation des véhicules et des caravanes s'ils refusent de s'en aller. Et bien voilà, on saisit leurs biens, on saisit leurs maisons, ils se retrouvent à la rue, voilà, et il faudra une tolérance zéro. On sait que ces gens-là, il y a une forte... chez beaucoup de ces gens-là, enfin voilà, on sait très bien que les gens du voyage sont impliqués dans beaucoup de crimes et délits, hein, on le voit rien qu'en regardant les faits divers, hein, dans le journal local, souvent ils n'hésitent pas, enfin, ceux qui le disent, voilà, la communauté des gens du voyage, issus des gens du voyage. Donc voilà, il faudra évidemment vérifier leurs sources de revenus et également d'avoir une tolérance zéro vis-à-vis de tous les méfaits qu'ils pourraient connaître. Mais ce sera pour les gens du voyage, comme pour tout le monde, comme pour les étrangers qui, à l'issue de leur peine, seront expulsés, parce que les étrangers seront expulsés. Les gens du voyage, beaucoup sont français et également ont des noms français. C'est vrai que les gens ne savent pas forcément, mais en fait, les gens du voyage ont des noms qui sonnent très français. Eh bien, ils devront se soumettre au droit français, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas, c'est pas parce que ce sont des gens du voyage, on dit « oh là là, il faut faire attention, non, on va pas aller dans le camp, parce que c'est risqué, c'est dangereux, on va les stigmatiser », non, la loi s'appliquera à tout le monde, tant aux Français de souche qu'aux étrangers, qu'à telle ou telle catégorie de personnes, qu'aux gens du voyage, la loi sera appliquée avec sévérité à tout le monde de la même façon, avec les mêmes condamnations. Les écrivains de gauche qui se révoltent contre Grasset à cause de Vincent Bolloré suite au limogeage d'Olivier Nora, qui était le directeur littéraire historique de la maison Grasset, des maisons d'édition Grasset, depuis 26 ans, et donc qui a été viré par Vincent Bolloré, qui est en fait le propriétaire de Hachette, et Grasset fait partie du groupe Hachette. Écoutez, Vincent Bolloré fait ce qu'il veut. Là, on voit les gens de gauche s'excitent, et bien qu'il qu'ils quittent Grasset et qu'ils aillent se faire éditer par un autre. Voilà, c'est la loi de l'offre et de la, demande. C'est-à-dire, s'ils ne sont pas contents, bah, qu'ils s'en aillent. S'il y a un changement de politique au sein de la maison d'édition, eh bien, il en existe beaucoup d'autres très à gauche, eh bien, que ces écrivains, plutôt de faire leur caca nerveux en place publique, eh bien, aillent se faire publier par quelqu'un d'autre. S'ils ne sont pas contents, c'est tout. Et puis, ça fera peut-être venir des écrivains de droite chez Grasset. Peu importe, j'imagine que ce monsieur Nouroc, je ne connais pas très bien, était sûrement un gauchiste et qu'il y a la solidarité des gauchistes entre eux qui souhaitent conserver monsieur Nouroc. Bon, voilà, c'est comme ça. Je n'ai pas plus de commentaires à faire sur cette question. On me demande aussi ce que je pense de Christophe Glaise, le journaliste qui est emprisonné en Algérie. Alors, je ne m'étais pas tout à, j'étais pas tout à fait au courant de ce qu'il avait fait. En tout cas, donc je crois qu'il était allé enquêter sur des clubs de football en Algérie, qu'il avait des contacts avec le mouvement Kabyle, qui est classé comme terroriste en Algérie. Donc voilà, je ne sais pas. Alors, je sais que ce monsieur est un gauchiste qui combat l'extrême droite. Bon. Voilà, j'ai pas trop d'avis sur la question. Faut pas être spécialement intelligent pour aller grenouiller en Algérie et s'opposer au pouvoir en place. On sait que ce sont des satrapes qui vous mettent en prison relativement facilement, en particulier si vous êtes français. Alors si en plus vous allez fricoter avec des opposants au régime algérien, bah oui, il y a de fortes chances que vous vous retrouviez en tôle, voire que vous fassiez zigouiller. Donc bah voilà, monsieur Glaise aurait peut-être dû aller ailleurs qu'en Algérie pour aller combattre, je ne sais pas, le gouvernement algérien. Je ne sais pas en gros ce qu'il faisait, quel était son but, son objectif, mais bon, bah voilà, il a été emprisonné en Algérie, en gros, je m'en fous. L'enquête sur l'audiovisuel public qui pourrait être enterrée. Effectivement, il est possible, donc on a vu, parce qu'elle a duré des mois d'auditions, des mois de rapports, de dossiers, de mise à jour, de scandales, en fait, de l'utilisation de l'argent public et du fonctionnement de France Télévisions avec l'infâme sorcière Delphine Ernotte qui est à sa tête. Il y a eu, voilà, une gabegie inimaginable d'argent public, de copinage, les copains ont s'arrosé les uns les autres qu'à France Télévisions, enfin, les salaires étaient inimaginables, les frais de réception énormes. Bon, voilà, tout cela a été dénoncé et pour l'instant, rien n'a bougé. C'est-à-dire que Madame Ernotte conserve la confiance de nos gouvernants, de nos dirigeants. Donc, là, avec un scandale pareil, enfin, elle aurait dû être virée très rapidement. Mais là, non, pas du tout. Elle s'est défendue plusieurs fois avec agressivité. Et donc, on a découvert à cette occasion le député Charles Alloncle a été particulièrement pugnace tout au long de ce marathon d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public et qui nous a convaincus, en tout cas nous, Passé de la France, nous l'étions déjà, mais là qui a mis en lumière au grand jour tout ce marais putride qu'est l'audiovisuel public. Et évidemment, au Parti de la France, nous sommes pour sa privatisation. C'est-à-dire que l'État n'a pas à avoir tant de chaînes, tant de chaînes, qu'elles soient de télévision, de radio. Voilà, je pense qu'il faut une chaîne d'État, c'est-à-dire je pense qu'il faut garder France 3 et une chaîne de radio, pourquoi pas France Info. Voilà, et c'est tout. Tout le reste, tout ce qui relève du divertissement, évidemment, des chaînes neutres, véritablement objectives et neutres, et pas des chaînes de gauchistes comme c'est le cas. Comme c'est le cas actuellement. Voilà, et il est possible effectivement que tous les travaux de cette enquête soient, alors je ne sais plus par quelle manœuvre, mais apparemment des députés demandent à ce que cette enquête, que tous les travaux de cette enquête en fait ne puissent plus jamais être consultés. On voit à quel point le coup de pied dans la fourmilière a été salutaire. On pose une question sur le couple Jordan Bardella et Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles, si je veux donner son nom en entier. Donc ce que j'en pense, bah, je trouve que ça a plus de gueule que le couple Macron ou que le couple Attal. Je crois que ça fait partie en fait du jeu, donc évidemment il y a une mise en scène, mais je dirais pourquoi pas, je trouve que ça a de la gueule. Jordan Bardella est un beau jeune homme, elle était une belle jeune femme, et bien, je trouve que voilà, ça a de la gueule, et je pense que c'est une bonne stratégie politique dans le sens où les Français, eh bien, avoir un beau et jeune couple à l'Élysée, eh bien, ça les changerait, dirons-nous. En tout cas, puis dans la même question, on me demande si ce n'est pas juste de la façade que Jordan Bardella serait gay. Écoutez, je n'en sais strictement rien. Alors, c'est vrai qu'on a pu voir ici ou là des vidéos où il n'y avait pas des attitudes particulièrement viriles, mais honnêtement, je n'en sais absolument rien. Je n'ai pas d'informations croustillantes à ce sujet. En tout cas, voilà, je trouve que c'est pas mal. Comment évidemment, c'est du marketing, puisqu'il n'était absolument pas obligé d'en parler avec des photos pas du tout volées qui sont passées dans Paris Match. Mais je trouve pour quelqu'un qui se présente à l'élection présidentielle dans une démocratie comme la nôtre, eh bien, je pense que c'est plutôt une bonne opération. On me pose une question sur Philippe de Villiers, s'il fera un bon candidat à l'élection présidentielle. Non, je ne vois pas, à part quelques boomers accros à CNews, je ne vois pas qui a envie que Philippe de Villiers, à la voix chevrotante, soit candidat de la droite nationale à l'élection européenne. Tout au long de sa carrière politique, il a combattu le Front National, il a essayé d'en reprendre les idées, il a essayé d'en affaiblir le score, il s'est déballonné sur tout à chaque fois, il a même participé à différents gouvernements, donc voilà, donc c'est quelqu'un pour qui je n'ai aucune estime ni aucune fiabilité. Alors évidemment, il dit des choses vraies, hein, bien sûr, mais voilà, c'est quelqu'un sur qui on ne peut pas compter et qui ne représente absolument pas une force d'avenir. Que pensez-vous de Place d'Armes ? Alors Place d'Armes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association de combattants et d'anciens combattants qui honorent l'armée française et les valeurs patriotiques. Eh bien écoutez, nous avons de bonnes relations avec Place d'Armes, en particulier en Bretagne, et d'ailleurs nous associons à Place d'Armes pour l'organisation d'une fête du cochon qui aura lieu dans le Morbihan le 20 mai prochain, oui c'est ça, je crois, enfin, vous devrez vérifier la date, mais il me semble que oui, c'est bien le 20 mai prochain, donc je vous invite à venir à cette fête du cochon, qui avait fait d'ailleurs une énorme polémique nationale l'année dernière, puisque députés et les filles étaient montés au créneau pour faire interdire notre fête traditionnelle, fête du cochon du Parti de la France, et ça avait fait beaucoup de bruit, et d'ailleurs cette fête s'était tout de même tenue ailleurs grâce aux amis de Place d'Armes et de Riposte Laïque. On me pose une question sur la photo du soldat israélien qui détruit une croix chrétienne à la masse au Liban. Je dis ça symbolise parfaitement ce que certains appellent la civilisation judéo-chrétienne, qui est un concept qui n'a aucun sens. Voilà, je trouve que c'est tout un symbole. Que faire des cités après la remigration ? Oui, ces abominables barres d'immeubles qui, au départ, avaient pour objectif de loger des ouvriers français. En fait, c'était pour faire venir les masses, l'exode rural. Ils ont été construits dans les années 50 avec une conception de l'architecture absolument abominable et très communiste. Hein. Vous savez, les barres d'immeubles, c'est très communiste. Hein. C'est la maison du prolétaire. Et le prolétaire blanc, le prolétaire gaulois, s'est fait remplacer petit à petit dans ces affreuses cités par des étrangers, en particulier extra-européens, islamisés. Et on a pu voir dans quel état, parce que quand ces cités étaient occupées par des ouvriers français ou des ouvriers issus de l'immigration européenne, tout cela a été propre, entretenu. Et dès qu'elles ont été colonisées par l'invasion extra-européenne, on a vu dans quel état elles se trouvaient. Alors le pire, c'est qu'il y a des réhabilitations régulières, très très souvent, très très coûteuses, et que ça ne sert à rien puisque c'est systématiquement vendu. Vandalisé, dégradé, abîmé. Donc le problème n'est pas tant le contenant que le contenu, je dirais. Mais oui, au niveau, c'est affreux. Et donc, je pense qu'après la remigration, déjà, nous aurons besoin de beaucoup moins de logements. Et ce ne sera pas une catastrophe que la France se retrouve avec 15 ou 20 millions de personnes en moins. Et donc, je pense qu'il y aura besoin de moins de logements et que les quartiers les plus horribles au niveau architecturaux pourront être purement et simplement rasés et remplacés par des parcs ou par une urbanisation beaucoup plus harmonieuse que ces affreuses cités. Une question sur Elon Musk qui ne se rend pas à son audition libre. Eh bien, comme son nom l'indique, une audition libre, on n'est pas obligé de s'y rendre. Et évidemment, Elon Musk a tout à fait raison de faire un pied de nez à la justice rouge française qui voudrait le museler, encore une fois, son réseau social qui cause tant de misère à nos gouvernants, en particulier à M. Macron. C'est obsessionnel chez lui de vouloir censurer les réseaux sociaux. Eh bien, Elon Musk ne s'est pas rendu d'ailleurs à l'audition libre. D'ailleurs, on ne sait pas du tout. On a vu que M. Durov, le patron de Telegram, s'était retrouvé en détention provisoire. Donc, on n'est pas du tout à l'abri qu'un juge cinglé ou un procureur cinglé le place en garde à vue dans l'optique d'humiliation, de pression, comme pourrait le faire n'importe quelle dictature. Donc voilà, c'est tout à fait normal que Elon Musk adresse un immense doigt d'honneur à la France de Monsieur Macron, enfin je veux dire pas à la France, mais je veux dire à Monsieur Macron et au juge rouge. Quelles mesures pour préserver la faune sauvage menacée par le trafic routier ou les pesticides comme les hérissons, les lapins, etc. Bon. Je savais pas que cette faune était menacée. Écoutez, les hérissons, on nous avait dit, moi je me souviens, on disait, les hérissons, il n'y en aura plus, ils ont disparu, on voit disparaître régulièrement, on vous dit, et puis là, on voit quand même beaucoup de hérissons. Moi, j'habite à la campagne, j'en vois régulièrement qui viennent dans mon jardin, on en voit malheureusement sur la route, ils se font écraser, parce que le hérisson est très con, et il traverse la route, voire il reste en attendant de se faire écraser. C'est pas tant qu'il y a la route, c'est je crois qu'ils viennent se réchauffer sur la route. Je sais plus quelle est la raison pour laquelle le hérisson aime bien la route, mais en tout cas, il n'est pas en voie de disparition. Quant au lapin, j'ai pas entendu parler qu'il y avait une raréfaction des lapins dans nos campagnes. Mais en tout cas, oui, il faut être vigilant avec tous les acteurs. Moi, je suis pour un équilibre environnemental et bien sûr qu'il faut contrôler. Je ne suis pas pour tout pesticide, mais là, actuellement, les taux de pesticides employés par nos agriculteurs sont très, très peu élevés. Et surtout, le plus gros scandale, c'est qu'on interdit beaucoup de choses à nos agriculteurs, mais qu'on autorise l'importation de produits où toutes sortes de pesticides sont utilisés et qu'on met en concurrence nos agriculteurs avec ces produits. Bon, ça, c'est autre chose. Mais évidemment, moi, je pense qu'il faut un équilibre environnemental. On en parlait l'autre jour dans sa conférence sur l'écologie avec Éric Pinel. Je pense qu'il faut un équilibre. C'est-à-dire un équilibre dans le sens où tous les acteurs de l'environnement, qu'ils soient les défenseurs de l'environnement, les associations de défense de l'environnement, les chasseurs, les agriculteurs, eh bien, tout cela doit évidemment être surveiller, regarder et tous ensemble préserver notre patrimoine environnemental exceptionnel que nous avons en France. Et c'est cela, en tout cas pour moi, ce qu'est la définition de l'écologie. Comment lutter contre la prolifération du halal ? Eh bien, c'est tout simple, c'est en l'interdisant. Le halal est une méthode d'abattage barbare qui n'a rien à voir avec les traditions françaises. Donc l'étourdissement préalable doit être une obligation. Et donc, évidemment, il faut arrêter immédiatement, mettre fin à l'abattage halal et kasher. De toute façon, pourquoi il y a une telle demande du halal ? Parce que il y a une submersion migratoire islamique. Ça répond à la demande des des populations musulmanes qui s'installent en France. Eh bien, en tout cas, avec le Parti de la France, ce sera terminé. Si vous voulez manger du halal ou du kasher, vous irez le manger dans un pays musulman ou dans un pays juif. Mais en tout cas, en France, ce type d'abattage sera interdit. Et également, les abattoirs seront surveillés pour que, il y ait les conditions d'abattage, même s'il n'est pas halal ou kasher, eh bien, soient dignes et qu'il n'y ait aucune souffrance animale, que ce soit pendant le transport ou avant l'abattage, et étourdissement bien sûr obligatoire avant que l'animal soit tué. Jean-Philippe Tanguy qui veut la dissolution du Parti de la France. Bon, bah, monsieur Tanguy peut s'agiter comme il veut, pour l'instant il n'est pas au pouvoir, et quand bien même le Rassemblement National serait au pouvoir, il faut quand même avoir des billes pour interdire un parti politique. D'ailleurs, il serait stratégiquement complètement idiot. Mais bon, voilà, on sait qu'au Rassemblement National, c'est pas les idiots qui manquent, d'interdire un parti politique qu'ils estiment être à leur droite, à leur extrême droite, puisque eux se revendiquent plus du tout d'extrême droite, et que le Parti de la France est l'abominable extrême droite des nazis, des fascistes, des voilà, l'extrême droite rance. Enfin, voilà, Monsieur Tanguy, évidemment, on lui fait quand il voit le programme du Parti de la France, il fait une poussée d'urticaire ou une crise d'hémorroïdes plutôt. Ça doit plus lui ressembler, ce genre de chose. En tout cas, ce ne serait pas dans leur intérêt politique que de dissoudre un parti politique qui est à sa droite. Et puis voilà, il faut avoir des billes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dissoudre n'importe comment. Voilà, pour quel motif le Parti de la France ce que l'on pourrait dissoudre. Et je pense qu'il y en a d'autres avant qui ont y pensé, qui ont pensé avant Jean-Philippe Tanguy. Si je pense le gouvernement macroniste avait des billes suffisamment pour demander la dissolution du Parti de la France, il le ferait. On me parle de la santé mentale des jeunes, qui est un véritable sujet pour l'auditeur qui me demande cela, de société, concernant la solitude, le harcèlement scolaire. Donc oui, c'est un problème, mais un problème qui, je pense, pour une bonne partie, a été créé de toutes pièces, car... quand on apprend plus aux jeunes Français à être fiers d'être Français, à être fiers d'être des hommes et des femmes, c'est-à-dire qu'on déconstruit depuis des décennies, que ce soit au sein de l'éducation nationale, que ce soit au sein des médias, de la société, voilà, on vous apprend que vos parents étaient des salauds, des racistes, des colonisateurs, des collaborateurs, que aimer la France, c'est ringard, c'est rance, que se marier et d'avoir des enfants, eh bien c'est pareil, c'est ringard, que le patriarcat domine tout, que les femmes doivent devenir des hommes et les hommes doivent devenir des femmes, que tout ce qui est beau, bien, vrai, que le catholicisme c'est l'horreur incarnée, que voilà, donc les jeunes n'ont plus aucun repère moral, plus aucun repère spirituel, plus aucun héros à admirer, hormis des youtubeurs dégénérés ou des rappeurs. Eh bien, il faudra changer tout cela. C'est tout un changement de société qu'il pourra y avoir avec un changement politique. C'est à partir du moment où l'État remettra la France, où les valeurs nationales, les valeurs de la France éternelle, seront remises au premier plan. À partir de là, nos sociétés changera profondément et on ne parlera plus de santé mentale des jeunes, où ce sera quelque chose de marginal. Mais effectivement, chez beaucoup de jeunes qui ont une véritable absence de repères, il n'y a pas une véritable foi en l'avenir. Voilà aussi pourquoi la démographie chute, puisque on veut faire de la jeunesse française, des jeunes français, des êtres ultra individualistes, égoïstes, et qu'en gros, le fait de fonder un foyer, d'avoir un enfant, de s'engager pour la vie avec quelqu'un, est quelque chose qui représenterait un frein à leur épanouissement personnel, alors que non. Et puis après, une fois que le train de la vie est passé, c'est beaucoup plus difficile de fonder un foyer. Alors quand on est un homme, on peut encore avoir des enfants quand on est plus âgé, mais voilà, pour une femme, eh bien voilà, quand on lui a dit que tout ce qu'elle devait faire, c'était privilégier sa carrière, qu'elle ne devait pas s'attacher à un homme, quand elle arrive à 40 ans, elle ne peut plus avoir d'enfant, ou très difficilement, et puis elle se dit qu'elle a loupé quelque chose. Donc là, on assiste aussi au regret, on le voit régulièrement, des femmes qui osent le dire, qu'en disant, voilà, en sacrifiant toute ma vie de femme à ma carrière, puisque voilà, c'était ce qui m'avait fait, c'est faire carrière, du coup, je suis passé à côté de ma vie de femme, d'épouse et de mère, puisque je n'ai pas eu d'enfant, je n'ai pas eu de mari, et que après, c'est trop tard, le cycle, comment on appelle ça, de la vie, mais je veux dire, le cycle de la fertilité est passé, hélas. Alors, on me pose une question sur les dirigeants nationaux actuels qui m'inspirent. Moi, je m'inspire de tous les dirigeants qui font passer les intérêts de leur pays et de leur peuple avant tout. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un en particulier. Par exemple, j'avais jusqu'alors beaucoup d'admiration pour Donald Trump, puisque c'était tout pour l'Amérique, l'Amérique d'abord. Faisons donc au niveau intérieur, Donald Trump avait toute mon admiration. Par contre, là, il s'est complètement décrédibilisé dans l'aventure contre l'Iran en étant le supplétif, le caliche d'Israël dans cette guerre, dans ce conflit. Donc là, évidemment, je ne peux pas soutenir Donald Trump là-dedans, mais en tout cas, en politique intérieure, jusqu'alors, jusqu'à l'aventure contre l'Iran, même si sa prise de position concernant le conflit israélo-palestinien était aussi critiquable, mais c'est quelqu'un pour qui moi-même et le Parti de la France avions de l'admiration. En revanche, ces dernières semaines, ces derniers mois, il a fait absolument n'importe quoi. D'ailleurs, il s'est complètement enlisé dans le bourbier en Iran et ne sait même plus comment aujourd'hui en sortir. Donc, il déclare tout et son contraire, fait absolument n'importe quoi, inquiète même son propre camp. Et Donald Trump, alors qu'il avait une chance historique de gagner les midterms, va sûrement se vautrer lamentablement. Ça va être une défaite électorale sûrement retentissante, qu'il va y avoir. Alors, en général, la plupart des présidents ont perdu les midterms. Je crois qu'il n'y en a que deux qui les ont gagnés. Ce sont les élections de mi-mandat, les élections l'équivalent de nos élections législatives. Mais là, il avait une possibilité historique de les gagner. Et donc, il a complètement foutu en l'air cette possibilité. Mais voilà, l'admiration que j'ai pour des dirigeants actuels, c'est, contrairement aux nôtres, je crois qu'on a presque les pires du monde en matière de gens qui sont de serviteurs de l'anti-France. C'est-à-dire que presque chaque décision qui est prise par nos gouvernants, en particulier par M. Macron, et va en général à l'encontre des intérêts de la France et des Français. Donc je crois que nous sommes malheureusement dans ceux qui avons les pires dirigeants du monde. L'équipe de France va-t-elle remporter la Coupe du Monde de football ? D'après ce qu'on a pu en voir lors des derniers matchs amicaux, je trouve l'équipe de France très forte, oui, effectivement. Le seul problème, c'est que cette équipe, peut-on encore dire que c'est une équipe de France ? D'ailleurs, elle plaît de moins en moins, les Français sont de moins en moins fans de leur équipe nationale. Pourquoi ? Parce que ils n'arrivent plus à s'identifier en fait à une équipe qui est à 90% d'origine africaine, et c'est effectivement, oui, un réel problème, puisque en France, Dieu merci, la population n'est pas encore à 90% d'origine africaine. Donc certains nous disent, ah oui, mais sans l'immigration extra-européenne, la France n'aurait pas eu ces deux Coupes du Monde. Écoutez, mais nous, si c'est juste ça, mais reprenez-les, partez avec. Franchement, si on doit choisir entre une Coupe du Monde tous les tous les 20 ans grâce à l'immigration extra-européenne ou pas de Coupe du Monde, mais pas d'immigration extra-européenne, mais repartez avec. On s'en fout complètement de ces Coupes du Monde. On s'en remettra. On préférera une équipe de France qui n'arrive même pas à se qualifier à la Coupe du Monde, mais qui soit composée de Français, non de milliardaires africains arrogants. Il n'y a qu'à voir, regardez-les. Ce spectacle ridicule, maintenant, quand ils arrivent à Clairefontaine, avec des habits absolument grotesques, de soi-disant de mode, mais en général, c'est des habits complètement 10 fois trop larges, ridicule, quoi, absolument ridicule, de grande marque, parce qu'en plus, ça coûte très cher, et donc rien que cela, mais décrédibilise totalement l'équipe de France. D'ailleurs, Didier Deschamps, en tout cas, la fédération devrait interdire cela, et il devrait arriver en survêtement réglementaire de l'équipe de France. D'ailleurs, je crois que le seul qui le fait, c'est N'Golo Kanté, qui lui ne cède pas à cette mascarade de défilé de clown où on a droit à chaque fois à Clairefontaine. Donc voilà, en tout cas pour le pronostic sportif, je pense que l'équipe de France a toutes ses chances de gagner la Coupe du Monde. Alors j'en imagine déjà certains qui disent « Oh là là, non, pitié pour qu'ils ne gagnent pas, sinon on va encore avoir droit au discours immigrationniste en disant « Regardez, la France, la Nouvelle France qui gagne la Coupe du Monde face à... ça prouve que c'est la France qui maille, la France qui gagne, la France c'est ça, la France qui gagne, si l'immigration extra-européenne était une chance pour la France, nous le saurions depuis longtemps. » En cas de multiples candidatures au centre droit avec M. Attal, Retailleau, Édouard Philippe, est-ce qu'un deuxième tour Mélenchon-Bardella est possible et est-il souhaitable? Je pense que la seule possibilité pour M. Mélenchon d'être au deuxième tour, c'est effectivement que l'accession au deuxième tour soit se fasse à un score très bas, parce qu'il y a une multitude de candidats dits du centre social-démocrate, centre-gauche, centre-droit, extrême-centre, peu importe comment on les appelle, mais qu'effectivement, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord pour se ranger derrière un candidat, et que l'accession au deuxième tour soit très très basse, soit autour de 15%, 16%. Là, peut-être que M. Mélenchon a une possibilité. Et je pense que Jordan Bardella fait moins peur aux Français que Jean-Luc Mélenchon. Oui, je pense que, en tout cas, ce serait, un boulevard, une autoroute pour l'Élysée, pour Jordan Bardella, s'il se retrouvait face à Mélenchon, qui fait quand même figure de repoussoir et qui effraie aussi une grande partie de nos élites. Donc, je pense que... Alors, moi, je n'y crois pas parce que je pense que Jean-Luc Mélenchon fait l'élection de trop et qu'il est devenu un repoussoir au sein d'une grande partie de la population française et que donc je pense qu'il n'accédera pas au second tour, sauf si l'accession au second tour est très basse. Ce serait la première fois qu'on ait même un candidat qui accède au second tour, qui fasse moins de 15%, imaginez. C'est tout à fait possible s'il y a une multitude de candidats qui s'annihilent les uns les autres. Voilà, écoutez, j'ai répondu à, je pense, toutes les questions qui m'ont été posées pour cette session d'avril. Je vous rappelle les prochains rendez-vous du Parti de la France. Le prochain, c'est la semaine prochaine, pour le 1er mai. Nous rendons hommage à Jeanne d'Arc, le jour de la fête du travail, comme le faisait Jean-Marie Le Pen. Ça se passera place Saint-Augustin. Donc à 11h le 1er mai devant la statue de Jeanne d'Arc. Et nous aurons également, dont je vous ai parlé tout à l'heure, de notre fête du cochon qui aura lieu donc le dimanche 20 mai. Et il y aura aussi le 20 juin prochain, nous vous y tiendrons au courant, le 20 juin prochain, nous rendrons un hommage à Jean-Marie Le Pen à la Trinité-sur-Mer, mais vous serez tenu au courant par un visuel et quelque chose qui vous expliquera un peu le déroulement de la journée. Et aussi, donc avant cela, le 7 mai, je passe devant le tribunal correctionnel de Paris pour délit d'opinion, puisque j'ai osé dire que je ne souhaitais pas que la France devienne le dépotoir territoires du tiers-monde où nos enfants se font égorger, illustré notamment par l'affiche « Donnons un navire aux enfants blancs ». Donc je serai au tribunal correctionnel de Paris, vous savez, le bâtiment affreux en verre là, que l'on voit quand on passe le périph, la porte de Clichy. Donc je serai là, donc à ceux qui veulent me soutenir, n'hésitez pas à venir. Donc à 13h30, le jeudi 7 mai, je serai au tribunal correctionnel de Paris et j'assurerai d'ailleurs moi-même ma défense puisqu'il s'agit d'un procès politique. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission.